avec autour de la table Rokhaya Pondy. Bonjour Rokhaya.
Bonjour.
Présidente de l'AMI Liaison. À vos côtés, Jean-Marc Vittori. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour tout le monde.
Éditorialiste aux Échos. Et Anthony Morlaix-Lavidali. Bonjour Anthony.
Bonjour Raphaël, bonjour.
Économiste chez Rexecode. Alors je le disais, on va parler de votre argent ce matin, beaucoup de vos salaires, du pouvoir d'achat et de la croissance. On va commencer par cette histoire de transparence salariale. Le gouvernement avait jusqu'à dimanche pour transposer une directive dont on vous parle depuis longtemps sur BFM maintenant, sur la transparence salariale, un texte européen qui oblige les entreprises de plus de 100 employés à déclarer régulièrement tout écart de rémunération dès qu'ils sont supérieurs à 5% et qui doit permettre aux employés de demander des informations internes sur les salaires. Objectif, évidemment, à travail égal. Salaire égal. Alors on voit que c'est quand même compliqué à mettre en œuvre pour l'instant. Jean-Pierre Farandou, le ministre du Travail, a indiqué ce matin, alors on n'aura pas la loi dimanche, hein, ça évidemment, mais le projet de loi devrait être envoyé au Conseil d'État d'ici dimanche au plus tard, promet-il. Anthony, je commence avec vous. Pourquoi ça coince cette histoire de transparence salariale? De prime abord, on se dit bah formidable, on va enfin pouvoir avoir un système objectif, objectivé et transparent pour les salariés.
Oui, alors il y a toute la problématique de la bureaucratie que évoquait Raphaël, c'est de dire, on voit bien qu'on peut basculer dans un monde où en fait c'est la paperasse et c'est très compliqué. On est dans un pays où le sujet des revenus salariaux est quand même un gros problème. Ça cristallise quand même beaucoup d'attention. Et puis l'idée du travail égal, salaire égal, faudrait plutôt parler de à performance équivalente, salaire équivalent. Parce que la réalité,
c'est intéressant cette différence.
Et oui, parce qu'à travail égal, salaire égal, ça, on gomme presque l'idée de la performance et de l'incitation à être performant. Et ça, c'est un vrai sujet. On voit bien en France que ensuite, on finirait par dire est-ce que tels ou tels écarts se justifient. En réalité, on a besoin pour créer de l'innovation et pour être dynamique dans une entreprise d'avoir des écarts qui reflètent aussi une différence de performance entre salariés. Et ça, on est très peu à l'aise en France pour le justifier. Très rapidement, on bascule en disant c'est probablement de la discrimination. Ben, pas forcément. Donc, il faut accepter aussi que les plus performants sortent par le haut d'un point de vue salarial. Et ça, on est très peu à l'aise en France pour l'admettre et le revendiquer. En tout cas, sur le papier, mais dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué.
Alors, beaucoup de choses déjà dans ce que vous nous dites là. D'abord, sur la paperasse. C'est la critique du patronat hein, qui craint l'usine à gaz, Jean-Marc, autour de ce texte.
C'est plus qu'une crainte. Je pense que quand les gens qui ont regardé les textes de près disent que c'est absolument effrayant parce que travail égal, salaire égal, comment vous définissez le travail égal? Est-ce que c'est par poste? Est-ce que c'est par âge? Est-ce que c'est par fonction de l'entreprise? Enfin, vous voyez bien que vous avez tout de suite...
C'est compliqué.
Voilà. Et ensuite, ben, on veut rentrer tout le monde dans le même moule. Hein. On a exactement le même problème que celui qu'on avait eu pour la CSRD, c'est-à-dire qu'on veut appliquer les règles qui sont largement les mêmes pour tout le monde, alors que les situations sont évidemment très, très différentes. Donc, c'est très, très... Enfin, honnêtement, ça peut être une machine à gaz et on sait que à Bruxelles, on a d'excellents experts, mais qui savent fabriquer des machines d'une bureaucratie absolument effroyable. C'est pas la première fois qu'on le voit.
Ça fait la fortune de l'AMI Liaison. Rokhaya Pondy, je rappelle que vous êtes présidente des éditions L'AMI Liaison, spécialisée dans la matière juridique. Est-ce que cette directive est une promesse d'usine à gaz en termes de règles? Est-ce que ça va être compliqué pour les entreprises? Oui ou non?
Alors compliqué, oui évidemment. Déjà, moi je souhaiterais rappeler une chose, c'est que ça nourrit beaucoup de fantasmes.
Ah.
Quand on a parlé de transparence des rémunérations, tout le monde a imaginé qu'on allait placarder dans tous les couloirs
exactement.
Les salaires des uns et des autres.
Qu'on
enfin,
allait connaître,
on saurait ce que touche le voisin, touche le manager, c'est absolument pas ça.
Ah, alors
donc,
expliquez-nous.
Alors, il y a plusieurs choses. Un premier travail à faire au sein des entreprises, c'est de mettre en place des accords GEPP. La GEPP,
c'est-à-dire
la gestion des emplois et des parcours professionnels, qui remplace la GPEC, hein, avant on parlait de GPEC, permet de cartographier les postes, d'identifier justement quelles sont les compétences clés, que ce soit des compétences, ce qu'on appelle les soft skills, donc plutôt comportementales, et les hard skills, les compétences techniques, métiers, pour ensuite identifier justement cette notion d'équité, d'égalité de traitement à profil, expérience, expertise équivalente. On peut effectivement, on doit doit proposer un salaire équivalent. La deuxième chose, c'est que au moment de l'embauche, on doit apporter une transparence, une fourchette de rémunération. Alors la fourchette peut se transformer en râteau, hein, on peut dire, voilà, c'est
ça peut être plus ou moins large.
Ça peut être plus ou moins large. Donc oui, c'est extrêmement compliqué parce que
là on laisse toute voilure, si je puis dire, à l'entreprise pour donner ce corridor où ça va être normé par des décrets. C'est toujours le risque après, on craint le gold plating, c'est-à-dire qu'on en rajoute des règles et des règles.
Bien sûr. Alors après, l'entreprise, elle rend des comptes à ses salariés, à ses représentants du personnel, les managers, hein, qui sont les premiers acteurs en proximité avec leurs équipes. Donc oui, c'est un gros travail dans un contexte où le droit social en France, vous le savez, connaît depuis toujours une inflation normative exceptionnelle.
Eh oui. Bon, donc,
et c'est encore une défiance supplémentaire vis-à-vis du marché. C'est-à-dire, si à un moment donné, on croit quand même que le marché du travail fonctionne à peu près correctement et dans la capacité de réallocation de l'emploi, si vous estimez que vous n'êtes pas suffisamment bien rémunéré ou en tout cas qu'une entreprise ne reconnaît pas vos talents à la hauteur de ce qu'ils sont, vous pouvez tout à fait partir chez le concurrent. Et ce n'est pas forcément à l'État en permanence de chercher à surréguler ou à vouloir organiser la manière dont les salaires sont définis. Et on a une grosse problématique de faire confiance dans l'allocation via le marché des salaires, des compétences, du travail. Et ça, semble-t-il, c'est encore un frein supplémentaire à l'idée de la performance et de l'innovation. Et je crois qu'à long terme, ça nous freine plus qu'au contraire, ça ne permet l'égalité de tous et la bonne rémunération de chacun.
Jean-Marc.
Là, je suis d'accord. Je pense que avoir des mesures pour aller vers un peu plus de transparence salariale, c'est pas quelque chose de honteux, c'est pas quelque chose qui empêche le marché de fonctionner.
Voilà, et puis est-ce qu'on est
on peut même soutenir l'inverse. On peut même dire que quand il y aura plus le marché, il a besoin de transparence et il fonctionne mieux quand il y a de la transparence. Donc, moi, je pense que derrière les raisons aussi pour rejeter cette avancée vers la transparence salariale, parce qu'effectivement, c'est pas l'affichage de la liste de tous les salaires de l'entreprise à l'entrée.
C'est pas la tyrannie de la transparence, quoi.
Ça n'est absolument pas ça.
Oui.
Je pense que derrière les réticences à avancer dans cette direction-là, il y a aussi des bonnes raisons que qu'Anthony vient d'évoquer, mais il y a aussi des moins bonnes raisons. On sait bien que dans les entreprises, il y a parfois dans les hiérarchies, dans les grilles salariales, il y a souvent des aberrations. Et ces aberrations, c'est pas dû à quelqu'un qui travaille mieux, ça peut être dû à quelqu'un qui est arrivé plus tôt ou plus tard.
Est-ce que c'est encore le cas? Voilà. Est-ce qu'on vit dans ce monde-là,
oui,
Jean-Marc, encore?
Oui,
je vais poser une question provoque et je vais vous la poser, Rokhaya. C'est compliqué pour un homme de la poser d'ailleurs, mais est-ce qu'on est encore dans un monde où il y a de grosses différences, des écarts salariaux importants entre les hommes et les femmes, selon les chiffres de l'INSEE, mais il y a toujours la macroéconomie et puis il y a les cas individuels. Mais l'écart salarial homme-femme est de 3,4%, si je ne dis pas de bêtises, à poste et temps équivalent.
Compétences équivalentes.
Mais est-ce que dans le flux des nouveaux contrats, est-ce que dans la pratique professionnelle aujourd'hui, on est encore dans un monde où il y a des écarts colossaux?
Mais évidemment, c'est une réalité, c'est une responsabilité de gouvernance à l'échelle de chaque entreprise. C'est aussi une responsabilité dont s'emparent les représentants du personnel, puisque le dialogue social, moi je considère, c'est un levier de compétitivité aussi. Donc ces sujets-là, faut les mettre sur la table. Maintenant, quand on parle d'égalité femmes-hommes, ça va au-delà du salaire. C'est aussi l'accession à des postes à responsabilité. Pendant longtemps, nous n'avons eu qu'une seule femme dirigeante au sein du CAC 40, puis deux, puis trois.
Et c'est la réglementation, c'est la loi Copé-Zimmermann qui a permis d'augmenter le nombre de femmes dans les boards.
C'est très récemment qu'on est monté à 12,5% de taux de féminisation au sein des entreprises du CAC 40. C'est pas assez. Et dans les PME, c'est aussi une réalité. Donc oui, c'est un sujet sociétal, je dirais, qu'il faut urgemment adresser au-delà de l'index qui a été mis en place il y a déjà quelques années.
Oui, mais ça, c'est sur la représentation des femmes dans les organes dirigeants. C'est béant, enfin, je veux dire, c'est évident. Sur la rémunération, encore une fois, est-ce qu'on est encore dans un monde où les femmes à poste équivalent sont moins payées que les hommes?
Oui, il reste le point de discrimination que tu as évoqué, Raphaël, mais pas que. C'est aussi que malheureusement, les femmes s'orientent moins souvent vers des secteurs rémunérateurs. Par exemple, on manque de femmes scientifiques, on aimerait en avoir beaucoup plus. C'est souvent des postes qui rémunèrent davantage. Donc, quand l'INSEE dit à poste et compétences équivalentes, il faut bien regarder que, effectivement, même
la
en amont, il y a des choix, voilà, même de l'autocensure, des fois, de la part des femmes qui, malheureusement, les empêchent d'arriver à des niveaux de salaire élevés. Juste pour revenir sur les grilles salariales, dans une vie pas si lointaine, quand j'étais encore dans le domaine public, on voit bien bien que appliquer des grilles à tout le monde similaires empêche complètement désormais la discrimination sur la compétence. Et ça, c'est en train d'uniformiser quand même pour partie. On ne peut pas sortir par le haut parce que les grilles sont faites de la sorte. Et puis il y a le poids de l'organisation qui fait quand même que c'est embêtant puisque ça peut créer à un moment donné des incitations assez fortes à l'idée d'être plus performant si on sait que finalement on n'en retirera pas spécialement les fruits. J'aime quelque chose d'un petit peu plus schumpeterien dans l'approche.
Oui, on se demande comment incentiver les meilleurs, quoi.
Mais complètement différencier. Alors après, ils peuvent se revendre ailleurs.
Mais... Si Anthony raconte ses souvenirs, moi je peux aussi raconter mes souvenirs. Une fois, j'ai obtenu, grâce à un procédé que je ne révélerai pas ici, une augmentation de salaire dans l'entreprise où je travaillais. Et mon chef m'a dit, vous vous rendez compte, maintenant vous êtes payé autant que X et Y. X et Y étaient au même niveau que moi de compétences, de formation, de tout ça. Leur seule caractéristique, c'est qu'ils étaient les derniers embauchés dans la boîte. Et je me suis dit, heureusement que j'ai obtenu cette augmentation. Et si j'avais su qu'ils étaient payés beaucoup plus, sensiblement plus que moi, je me serais battu plus tôt pour obtenir cette augmentation. Donc, voilà.
Oui. Est-ce que le texte européen tel qu'il est conçu aujourd'hui permet quand même de gratifier les salariés les plus performants par rapport à d'autres? Est-ce qu'on peut garder cet outil d'incentive?
Alors, bien sûr, on peut garder cet outil, mais encore une fois, ne nous méprenons pas, cette directive ne règle pas tout. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas au niveau attendu. Ce sujet était présenté il y a déjà 10, 20 ans comme une innovation sociale.
Oui.
C'était déjà présenté comme une... Absolument. Et ce n'est pas le cas, nous ne sommes pas au niveau attendu. Négocier son salaire, c'est une vraie compétence.
Oui.
Et donc, de fait, il y a un point de rupture qui se crée au moment de l'embauche, parce que certains vont être plus incisifs que d'autres. Malheureusement, on est dans une société qui est encore très patriarcale. Les femmes peuvent parfois souffrir d'un complexe d'infériorité ou un syndrome
elles
de l'imposteur.
Elles osent moins y aller, c'est ce qu'on dit d'habitude.
À tort, parce qu'elles ne sont pas moins compétentes que d'autres. Elles sont simplement invisibilisées, très souvent, par la société.
Oui, derrière, c'est des questions de management. Hein. Il y a des questions, effectivement, de droit et de règles. Mais derrière, c'est des questions de management. C'est-à-dire, est-ce qu'un chef est capable de justifier le fait qu'un salarié gagne plus qu'un autre? Est-ce qu'il peut avoir cette explication avec ses collaborateurs? Est-ce qu'il est capable... En France, très souvent, on a des problèmes de management, on a des problèmes de formation de la hiérarchie. On a des gens qui ont du mal à assumer leurs décisions.
Oui.
Donc, quand c'est caché, tout va très bien. Quand ça se révèle un petit peu, évidemment, ça pose des questions. Derrière, je crois vraiment qu'il y a une question fondamentale de la qualité du management en France sur lequel il y aurait beaucoup à dire.
Bon, et puis...
Oui, puis la culture des objectifs est en France très problématique. Très souvent, dès qu'on met des objectifs, on dit que les salariés sont sous pression, etc. Or, ça pourrait justifier quand même en partie des écarts en disant certains les ont atteints bien plus que d'autres. Et on sent bien que c'est quand même toujours une crispation en France, dans l'air ambiant.
Bon, il y a un objectif que beaucoup de candidats vont essayer de poursuivre pendant la campagne présidentielle, c'est rapprocher le salaire net du brut, parce qu'il y a la transparence salariale. Il y a aussi le travail qui ne paie plus. Et puis, il y a ce sondage très intéressant, publié dans les Échos ce matin.
Continuez de le lire, très bien.
Cher Jean-Marc, le pouvoir d'achat est évidemment la préoccupation numéro un des Français. Or, 8 Français sur 10 ont le sentiment que les salaires en France ont augmenté moins vite que l'inflation ces dernières années. D'abord, est-ce que c'est un sentiment justifié, Anthony ?
Pour partie, ça renvoie à toute la thématique de la smicardisation de l'économie française où on voit bien que le bas de la distribution, notamment le salaire minimum, est indexé sur les prix.
Oui.
On a quand même connu des chocs de prix récemment assez importants. Les salaires qui sont au voisinage, mais à 1,5 de SMIC, n'ont pas forcément suivi la même trajectoire. Donc effectivement, il y a ce risque. Alors, on parle souvent de coup d'accordéon au moment où donc les salaires se compressent quand il y a un choc inflationniste avant de nouveau se détendre. Mais on voit bien que c'est un sujet, hein, la différence entre le brut et le net. On le réglera pas. En revanche, si on ne s'attaque pas à ce qu'il y a entre les deux et ce que ça finance.
Eh oui.
Alors, il y a une partie, on nous dit que c'est du salaire différé, ce qui est pour partie vrai. Il faut poser la question aux Français de savoir est-ce qu'ils veulent s'assurer eux-mêmes ou est-ce qu'ils préfèrent un système de socialisation. Et donc là, ça
surtout quand on croit de moins en moins une retraite d'ici 10, 15, 20, 30, 40 ans. Hein.
On aime dire que c'est un choix collectif.
Eh
il faut peut-être poser la question aux Français. Et puis il y a une partie redistributive, il ne faut pas l'oublier non plus, c'est qu'on a un système qui est très redistributif. Ça a ses vertus, ça a ses défauts. Mais à la fin, peut-être qu'on va aussi un peu trop loin et on fait porter notamment une charge sur le travail plus, enfin, qui est quand même assez démesurée, en tout cas, qui est plus forte qu'ailleurs, et à un moment donné, peut-être que taxer un peu plus la consommation, un peu moins les revenus du travail, ça pourrait avoir du sens, parce qu'en France, on est, voilà, on met le paquet sur le travail, et ça commence à peser lourdement sur les salariés.
Oui, Rokhaya Pondy, on rappelle que, évidemment, tout notre système social, notre généreux système social, repose, son financement repose quasiment exclusivement sur le travail. Je vous voyais hocher de la tête à ce que disait
Bien Pondy, sûr, j'acquiesce au propos, puisque, en réalité, le problème, c'est la taxation du travail. On a un travail qui est taxé, voire surtaxé, qui n'est absolument pas valorisé. Maintenant, la question qui se pose, passer d'un brut à un net avec un écart moindre, bah, qui paye ?
Eh oui.
Qui paye ? Parce qu'en théorie, tout le monde achète, hein, tout le monde est partant. C'est un choix collectif. Je pense que si on devait faire un référendum sur le sujet, tout le monde serait d'accord. Mais qui paye ? Les entreprises qui sont déjà asphyxiées, est-ce qu'on les asphyxie davantage ? 68 000 défaillances d'entreprises en 2025.
L'année dernière, absolument.
À peu près 234 000 emplois concernés. Donc, qui paye ? Qui paye ce manque à gagner ? Qui doit prendre en charge, justement, ces écarts qui va falloir compenser sur la protection sociale, notamment, qui est le pilier de ce modèle social.
On a des idées qui sortent, hein, Jean-Marc, en ce moment. Il y a Pierre Cazeneuve, le député, par exemple, Ensemble pour la République, qui lui propose un grand Big Bang. C'est, de mémoire, je ne sais plus, 300 euros de pouvoir d'achat supplémentaire pour 15 millions d'actifs. Pour financer ça, et ben lui qui paye, il parle rétablissement de la taxe d'habitation, augmentation de la TVA et augmentation de la CSG, peut-être concentré sur les retraités qui ont une CSG inférieure à celui des actifs. Bon, ce grand débat, on va l'avoir pour la présidentielle, non ?
Je voudrais d'abord revenir sur le constat tout de même. Ça fait pas très longtemps que le salaire moyen, alors il y a différentes mesures du salaire, hein, mais ça fait pas très longtemps que le salaire moyen a dépassé en pouvoir d'achat son niveau d'avant Covid.
Ah. Hein.
Donc ça veut dire qu'il y a des millions de femmes et d'hommes aujourd'hui encore qui ont un pouvoir d'achat avec un salaire qui est inférieur à celui de 2019. Donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de gens qui disent ressentir une baisse du pouvoir d'achat. C'est vrai. Même si, heureusement, dans le bas parmi les salariés les moins bien payés, l'indexation du SMIC a permis d'éviter que ça se passe. Mais au-dessus, comme le disait Anthony, hein, il y a des millions de femmes et d'hommes qui ont effectivement encore aujourd'hui une situation financière qui est moins favorable que celle d'il y a 6 ans maintenant. C'est normal que ça pèse. Alors ensuite,
est-ce que le salut viendra par un grand jeu de bonneteau fiscalo-social en redistribuant qui fait quoi, en changeant la tuyauterie?
Il n'y a pas 10 000 solutions. Soit on baisse l'écart entre le brut et le net, entre le super brut,
comme on dit, oui.
C'est les cotisations sociales. Mm-hmm. Hein. Donc, soit on diminue les prestations sociales. Mm. Hein. Alors, on peut dire qu'il y a des choses à faire sur les retraites. On peut dire qu'on pourrait organiser infiniment mieux le système de santé. Hein. Je rappelle qu'au Royaume-Uni, la dépense de santé en pourcent du PIB est inférieure d'un quart à ce qu'elle est en France, avec une espérance de vie qui est à peu près du même ordre. Donc, ça fait 3 points.
Il y a des marges de progression de l'efficacité de l'euro dépensé, ce que vous nous dites, Jean-Marc.
Je suis schématique, mais bon, voilà. Les retraites, il y a sans doute beaucoup de choses à faire. Moi, je ne comprends toujours pas pourquoi il y a alors, je sais historiquement d'où c'est venu, mais je ne comprends toujours pas pourquoi aujourd'hui on a encore un écart sur la CSG pour les retraités et pour les actifs. Ça me paraît totalement
historiquement, d'où ça vient,
aujourd'hui,
c'est bien de le rappeler.
Non, mais... Il y a 35 ans, ça ne l'est plus aujourd'hui.
Ah, voilà, donc... C'est parce que le niveau de vie des retraités était bien inférieur il y a quelques décennies.
Non, c'est plus compliqué que ça. C'est parce que quand on a créé la CSG, les salariés...
Michel Rocard.
En 1991, les salariés ont bénéficié d'une baisse de cotisation dont évidemment ne bénéficiaient pas les retraités. Et donc, en échange, on leur a donné ça. Voilà, donc... Bon, mais c'était il y a 35 ans, on aurait pu supprimer ce dispositif en sifflet, on n'a rien fait là-dessus. Donc, il y a joué sur les dépenses. Ensuite, il y a joué sur les recettes. Moi, je pense que dans les dépenses, dans les cotisations sociales, normalement, c'est censé financer de l'assurance.
Oui.
Or, là-dedans, on a sans doute entre un tiers et un quart qui relève de la solidarité. La solidarité, ça relève pas de la cotisation. La solidarité, ça relève de l'impôt.
Oui.
Donc, ça doit être basculé sur l'impôt. Mais faire le tri là-dedans, c'est évidemment quelque chose de très compliqué. On en revient à l'idée de Big Bang. Alors, vous pouvez appeler ça de la tuyauterie socio-fiscale, mais si on veut qu'il y ait moins d'écart entre le brut et le net, soit on diminue la protection sociale, soit on augmente ce qui est.
Oui, mais là, ce que dit Rocaillat, c'est qui paye. Ça veut dire que c'est les plus modestes qui payent, Jean-Marc.
Non, à ce moment-là, c'est l'ensemble des Français, c'est-à-dire pas seulement les salariés. Il y a un très bon exemple, moi, j'aime beaucoup. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas parlé, donc je le remets dans le pot de la discussion. C'est les intermittents du spectacle.
Oui.
Les intermittents du spectacle, ça consiste à faire payer les arts vivants par les salariés du privé. Qui profitent des arts vivants? Les salariés du privé, évidemment, mais aussi les salariés du public, qui ne payent pas, puisque c'est de la cotisation chômage, et puis les retraités, hein, qu'on voit très souvent dans les festivals, y compris dans les concerts, hein, on voit de plus en plus des sexas, voire des septagénaires, qui sont très heureux d'être
absolument.
Là, et c'est très bien, mais
vive la culture.
Pourquoi est-ce que c'est seulement les salariés du privé qui payent ça? Là, on est typiquement dans quelque chose qui devrait basculer de la cotisation.
Oui, puisqu'évidemment, les fonctionnaires, les agents de l'État, de la fonction publique hospitalière et des collectivités ne seront jamais au chômage. Et donc, évidemment, ils ne cotisent pas.
Oui, mais ce n'est pas un dispositif de soutien au chômage. C'est un système de
financement du monde de la culture.
Aux arts vivants. Et donc, ça doit basculer sur l'impôt. Et des exemples comme ça, il y en a beaucoup dans le système.
Bon.
En résumé, ça a été très bien dit. Il faut arriver à basculer une partie vers la TVA, la CSG, probablement réhabiliter la taxe d'habitation. Et puis ne pas oublier, quand on parle de différence entre brut et net, qu'il est très faible au niveau du SMIC. On l'a pas dit aujourd'hui.
Ah, il n'y a plus oui. quoi 3, 4, 5 points.
Exactement. Par contre, il est très élevé dès lors que l'on augmente assez rapidement sur l'échelle des salaires. Donc en plus, il y a ce fameux arbitrage de on soutient très fortement l'emploi au SMIC parce qu'on a un SMIC qui est très élevé, hein, le plus élevé de l'OCDE en proportion du salaire médian. On dépasse 62%.
Oui.
Et à l'inverse, on
63,5%.
Pour financer ça, on surtaxe le travail qualifié. Là aussi, c'est pas génial, hein, parce que ça pousse l'économie française à être plutôt bas de gamme. Et à l'inverse, on la désincite à monter en gamme puisque le travail qualifié est très pénalisé. Donc il y a ces deux points-là. C'est d'une part basculer probablement plus de financement vers des assiettes plus larges et qui pèsent moins sur le travail, et puis probablement revoir cet équilibre de cotisation sur l'échelle des salaires, qui est quand même très progressive en France, avec un coin socio-fiscal qui devient prohibitif dès lors qu'on arrive à 2-3 SMIC.
Oui, je crois que c'est même 67,5, c'est-à-dire que le salaire minimum en France est 2/3 du salaire médian, hein, ce qui crée...
Et on comprend bien pourquoi on le fait.
Crispation, hein.
Oui. On veut un salaire minimum très élevé, et en même temps on comprend bien qu'avec un salaire minimum très élevé, ça crée du chômage à ce niveau-là, parce que la productivité n'est pas équivalente, et donc forcément on est obligé de le subventionner en quelque sorte. Enfin, c'est encore une fois, on se détourne du marché, et le salaire minimum n'est pas une réalité de marché. Alors après on peut l'accepter ou non, mais ça crée de la distorsion.
Ah non, le salaire minimum, il est indexé sur l'inflation, comme tout un ensemble de dépenses sociales, les retraites, les allocations familiales, les minima sociaux. Et quand on est en période d'inflation, comme nous le sommes aujourd'hui, de retour de l'inflation, eh bien tout cela coûte très très cher notre modèle social. On va en parler, hein, un modèle hors de contrôle, ça sera la question qu'on va se poser après cette coupure pub. Et puis on reviendra sur les prévisions de croissance de l'INSEE. Alors la croissance passée qui est bien meilleure, la croissance à venir, ça va être plus compliqué. Ne quittez pas, on se retrouve tout de suite.